Vous voulez vous exprimer, poser des questions sur un sujet qui vous préoccupe, ou encore donner votre avis sur une situation inquiétante, vous donne rendez-vous. Moi, Marie-Chantal Lumba, dans Parole aux auditeurs. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 11h à 12h, et mercredi, de 10h à 11h15, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, un rendez-vous quotidien sur Radio Capi.
J'ai revu totalement ce que
tu as dit.
Bonjour, nous allons passer avec vous, comme chaque mercredi, plus d'une heure de discussion et d'échange sur un sujet qui vous passionne. La demande de plus de structures nationales et internationales, de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC et au centre de notre mission, un tribunal international pour juger les crimes commis en RDC avant 2002. L'idée d'un TPI pour la RDC a fait du chemin et figure au nombre des recommandations du dialogue intercongolais tenu en Afrique du Sud en 2003, demande reprise par le gouvernement congolais qui, à un moment, par la voix de son ministre de la Justice, l'avait jugé dépassé. Actuellement, la position de Kinshasa n'est pas très claire. Néanmoins, le porte-parole du gouvernement avait déclaré soutenir cette demande. Depuis la publication le 1er octobre dernier du Mapping Rapport, rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme sur les crimes commis en RDC entre 1993 et 2003, la question de la création d'un TPI pour la RDC est sur toutes les lèvres, aussi bien en RDC, dans la région des Grands Lacs que dans la communauté internationale. Quel est votre avis? Êtes-vous pour ou contre la création d'un tribunal pénal international pour la RDC? Le professeur Auguste Mansouya est notre invité, il est professeur de droit dans plusieurs universités en RDC, même à travers le monde. Il est professeur émérite de l'Université de Nancy en France et aussi juge à la Cour internationale de justice. Pierre Lamengi, Cynthia Bachizou, quant à la réalisation de cette émission, Jean-Noël Mokondo est à la mise en œuvre et Marie-Chantal Lumba à la présentation.
Parole aux auditeurs. Pour votre numéro direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiooccapi.net.
Bonjour professeur.
Bonjour Marie-Chantal.
Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir dans ce studio de Radio Capi, surtout dans son émission Parole aux auditeurs. Pour ou contre la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, c'est la question qui est au centre de notre mission. Professeur, quels sont les crimes qui peuvent être jugés par un tribunal pénal international?
Merci bien pour votre invitation. J'ai une petite rectification à faire. Mm-hmm. Je ne suis pas juge à la Cour internationale de justice, juge ad hoc. Juge ad hoc à la Cour internationale de justice, c'est-à-dire un juge qui est désigné pour une seule affaire, je ne suis pas un juge permanent.
Voilà, la différence.
Voilà la différence. Alors, cela dit, quels sont les crimes qui peuvent être, qui peuvent justifier la création d'un tribunal pénal international? Tous les crimes considérés comme crimes internationaux, c'est-à-dire les violations graves des conventions internationales, des traités et pactes internationaux qui prescrivent un certain nombre de comportements et de conduites des États dans certaines circonstances ou de façon permanente.
Comme un crime de guerre.
Dans certaines circonstances, par exemple, au cours des conflits armés ou de façon permanente lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité.
Comme l'humanité, les droits fondamentaux de l'homme.
Voilà, la violation grave des droits humains qui peuvent être commis indépendamment des circonstances de guerre. Pourquoi a-t-on pensé à une justice internationale? C'est parce qu'on s'est rendu compte que, d'une part, les crimes visés, ce sont des crimes qui portent atteinte gravement à l'humanité, c'est-à-dire au sens même de l'humain, et par conséquent concernent tout le monde. ils ne peuvent pas être laissés à la seule définition des systèmes judiciaires nationaux. Il faut que la communauté internationale s'en occupe. Et c'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, depuis en fait la fin de la Première Guerre mondiale, on s'est occupé de ce genre de questions. Deuxièmement, on s'est rendu compte également que lorsque ce qui n'était laissé à la compétence pénale territoriale des États, il n'y avait pas beaucoup d'efficacité, dans la mesure où les États sont en clair à pardonner, à tolérer.
Au nom de la paix.
Pas seulement ça, mais qui sont commis par leurs propres agents, parce que souvent c'est sous commandement, notamment au cours d'un conflit armé, c'est sous commandement, on ne voit pas comment un État pourrait juger sa propre armée. L'histoire a montré que les premières tentatives qui avaient été faites après la Première Guerre mondiale, notamment en ce qui concerne les criminels de guerre allemands et l'empereur allemand, n'ont pas été concluants. Et par conséquent, il a fallu s'orienter vers une instance internationale.
Et avec ce dernier rapport qui a été publié, le rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme sur les crimes commis en RDC entre 1993 et 2003, donc il y a des preuves qu'effectivement il y a certains crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui ont été commis en RDC.
Il y a des indices sérieux. C'est la raison pour laquelle le rapport se permet de qualifier ces faits en attendant que un tribunal compétent, indépendant, impartial, puisse confirmer après des enquêtes ces qualifications, mais à première vue, prima facie, comme nous disons, il s'agit bien de crimes qui relèvent de ces catégories de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Mmh. Il est peut-être bon aussi que le Congrès sache pourquoi on a limité cette période.
Avant 2002, à cause de la Cour pénale internationale qui a été créée en 2002 avec son statut de Rome.
Il y a ça, mais en même temps, oui. C'est-à-dire que quand on recherche maintenant quel est le mécanisme idoine pour juger ce genre de crime, on se rend compte que la Cour pénale ne pourra pas pour une certaine période. Donc il faut quelque chose d'autre. Mais pourquoi on a pris mars 1993, c'est que en cette période-là, au Zaïre, il y avait eu des conflits ethniques dans l'est du Congo, notamment dans le nord Kivu, dans la localité de Toto, où il y a eu des massacres des membres d'une communauté, l'une de nos communautés.
Non, on pense que ce serait un génocide, mais il faudrait qu'on puisse voir dans quelle mesure pour qualifier tous ces termes.
Oui, c'est pour ça que ce n'était pas un conflit armé international, de toutes les manières. Donc, il pouvait bien s'agir d'un conflit armé interne. Mais le droit international humanitaire, qui réprime ces crimes, peut également s'appliquer au conflit armé interne.
Une dernière question avant que nous puissions écouter les avis de nos auditeurs. Quelle est la procédure pour la création d'un tribunal, d'un genre de tribunal pénal international?
Je dois d'abord préciser que le rapport Mapping n'a pas recommandé explicitement la création d'un tribunal.
Ça, c'est les recommandations des ONG internationales, Human Rights Watch, la société civile, même la CENCO, donc il y a eu, même le gouvernement, au cours de sa
révolution. Votre présentation indique également que le gouvernement congolais commençait à hésiter.
Oui, donc.
Et même n'était plus très, très favorable. Il y a d'abord dans la justice internationale et internationale plusieurs instances. La Cour pénale, on le sait, on sait comment elle a été créée, c'est par un accord des États, un traité entre États. Elle n'est pas concernée spécialement, en tout cas pour au moins une partie des crimes visés par ce rapport. Il y a la possibilité d'un tribunal pénal international, à l'instar de ce qui avait été créé pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
Même en Sierra Leone.
Ce n'est pas la même chose. Donc, le tribunal pénal international stricto sensu est créé par une résolution du Conseil de sécurité. Donc, les grandes puissances et bien évidemment les autres membres du Conseil s'accordent pour créer un tribunal pénal international. Un tribunal pénal international requiert énormément de moyens, notamment financiers et matériels. Et ce n'est peut-être pas évident. On en parlera peut-être au cours de l'émission. Il y a une autre possibilité, c'est le tribunal spécial. comme celui de Syrah.
Au Liban, pendant.
Au Liban, mm-hmm. il y a eu également un tribunal de cette nature. On peut créer un tribunal mixte, combinant des éléments internationaux et nationaux, mm-hmm. aussi bien sur le plan du droit applicable que sur le plan des agents, c'est-à-dire des magistrats, un certain nombre de personnels judiciaires congolais et internationaux et du personnel judiciaire prêté par la communauté des États, choisi par la communauté internationale. On peut concevoir une autre possibilité, et d'ailleurs, le rapport reprend cette possibilité en indiquant les avantages et les inconvénients. La troisième possibilité, c'est que, au sein même des juridictions congolaises, on prévoit une chambre, ou des chambres spécialisées, qui seraient des chambres mixtes, intégrant des Congolais et des éléments fournis par la communauté internationale. Mmh. Il y a aussi la possibilité que les juridictions nationales des États puissent être compétentes et juger. D'abord, de l'État concerné, l'État congolais, et là-dessus, peut-être qu'on en parlera également pour les émissions, parce que il y a tout de même à s'interroger sur la faisabilité, c'est-à-dire est-ce que les tribunaux congolais sont capables de juger ce genre de personnes.
Autant de questions, aussi de possibilités. Nous allons d'abord écouter nos auditeurs qui nous donnent leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent de la création ou pas d'un tribunal pénal international. Merci.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Vous êtes de Rutshuru, mais pour l'instant vous êtes un peu déplacé. Jean-Claude, on vous écoute. Vous êtes pour ou contre la création d'un tribunal pénal international pour la RDC?
Je suis très pour, si c'est français, en tout cas, je suis vraiment pour.
Hein. Mais pourquoi, Jean-Claude?
D'abord, j'ai dit d'abord merci pour cette opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer, et que madame la responsable du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme trouve aussi mes remerciements, parce que c'est une femme qui a fait, qui a prouvé aux yeux du monde qu'elle peut faire du travail sans pression extérieure. Maintenant, je suis pour parce que ceci remettrait une certaine confiance de nous, la population, surtout de l'être. Parce que vous savez, nous savions qu'un jour, ça sera peut-être la vengeance. Maintenant, ceci ne se réussit. Parce que vous savez, avant ce rapport, c'était un sujet tabou. On ne pouvait même pas en parler. Parce que si vous en parlez, on risque même de vous tuer. Maintenant que ça a été publié, mais là, nous avons le courage d'en parler, nous connaissons le bourreau. Je vais vous donner un exemple très important.
Mais nous allons éviter, Jean-Claude, de citer le nom des personnes sur les
enfants. Je ne vais pas citer le nom des personnes, je vais citer seulement un village.
Oui, on poursuit. Mais allez-y, Jean-Claude.
Le village que vous dites, je suis à Mugogo. Dans ce village, un matin, il y a le militaire envahisseur qui arrive et dit, vous avez une réunion, on va vous montrer vos nouveaux dirigeants. Et toute la population qui était dans le marché, toute la population a fui, et puis on les encercle et on commence à tirer avec les morts. Il y a eu plus de 1000 morts, s'il vous plaît. Hein?
Ça fait beaucoup.
C'est un pays qui a commencé. On a été là, peut-être. Je suis un rescapé. Et vous voyez, si c'est la terre qui est impunie, ce n'est pas possible. Et puis, ce tribunal va nous permettre d'assainir notre administration et de notre armée, de tous les criminels. Hein? Ceci va décourager complètement toutes les auteurs des créations de rébellion, de rébellion, et toutes les milices, hein. Mm-hmm. Et puis, une seule chose, je vous dis que depuis qu'on a publié ce rapport matin, l'attention a sérieusement diminué. Il y a beaucoup de gens qui se la forêt, des milices qui se rendent, mais là, automatiquement. Hein, qui comprend que maintenant, il y a la justice qui aura lieu. Mm-hmm. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Redonner confiance aux populations, mais aussi lutter contre l'impunité. Merci pour votre intervention. Nous avons Amiti, il est à Kindu. Bonjour, Amiti.
Oui, bonjour, Marie-Chantal Lumba.
Bonjour à tous. Et vous êtes pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Pourquoi?
D'abord, je salue la présence du professeur au studio de la radio Capi. Mm-hmm. Nous saluons avec toute les dernières énergies la création de ce tribunal en République démocratique du Congo.
Mm-hmm. Et pourquoi Amiti?
Bon, cela nous aidera à poursuivre ces criminels qui dérangent les Congolais et tout l'est du pays. Parce que nous avons des auteurs, des responsables des crimes qui se commettent à l'est du pays qui ne sont pas poursuivis. La Cour suprême de la justice du Congo n'a pas à faire. Elle est inactive. C'est pourquoi nous saluons la création de ce tribunal qui nous aidera à poursuivre ces auteurs. Et que ce tribunal ne suive pas seulement les crimes de nos antennes, même les crimes qui se commettent actuellement au Congo. Nous avons Laurent Kunda.
S'il vous plaît, amis, nous allons essayer de faire le mieux pour ne pas citer les noms des personnes au cours de cette émission. Vous avez des témoignages, mais évitons de citer les noms des personnes.
Oui. Malgré que nous allons éviter, mais ce sont les gens qui ne sont pas poursuivis.
Donc, à votre avis, il y a des personnes qui se trouvent, vous pensez, s'il vous plaît, vous pensez qu'avec cette cour, cela pourra permettre de pouvoir poursuivre certaines personnes que vous pensez que pour l'instant sont à l'abri de la justice.
Pour conclure, je dirais que ce tribunal met en application et qu'il soit là pour poursuivre les infractions qui se commettent à la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Amici, pour votre participation à cette émission. Nous allons écouter Richard. Il est ici à Kinshasa. Bonjour, Richard.
Bonjour, Marie-Chantal.
Vous aussi, vous êtes pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Pourquoi?
Oui, je suis pour la création de cette cour de justice parce que le Congo vient de connaître le plus grand génocide qui soit commis sur cette terre. 6 millions d'habitants tués, c'est hyper criminel.
Ça, c'est vous qui le dites, parce que vous savez que pour qualifier un massacre de génocide, il y a tout un protocole par rapport à cela. Mais Richard, vous pouvez continuer votre intervention.
Vous savez pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est parce que les commanditaires ne sont pas en Afrique. Les commanditaires sont hors de l'Afrique. C'est pourquoi je dis ça. Alors, maintenant, l'intérêt de ça, c'est quoi? Ça va aider les politiques congolais de cesser d'être des balles de ping-pong pour les autres. Parce qu'on vient leur proposer des projets pour tuer et prendre le pouvoir. Ou alors prendre les richesses. Dans l'impunité nationale. Voilà.
Merci.
Pourquoi? Ce sera la première leçon pour les Congolais. Et ensuite, on verra d'autres éléments à tirer par rapport aux étrangers qui ont mis leur nez dans le massacre des Congolais afin de s'accaparer des richesses du Congo, afin de placer leurs pions à gauche, à droite, pour continuer à les servir.
Merci beaucoup, Richard. De
merci beaucoup.
Pour votre intervention, nous avons Mathieu. Il est à Mbujimayi, au centre du pays, c'est dans la province du Kasaï oriental. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour madame Chantal, je suis en train d'habiter ce matin.
Ah, vous êtes à Kalangé, non, à Mbujimayi, donc c'est au Kasaï occidental, c'est voisin hein, du Kasaï oriental, on vous écoute.
Bon, d'après mes analyses, en tant que sociologue de carrière et serviteur GG, puisque tous les actes de barbarie qui se sont déroulés dans ce pays, madame, il y avait direct à savoir l'exportation et l'exploitation illégale et anarchique de nos ressources minières, des autres faits par les soi-disant indiscutables. L'intolérance, la dictature, la haine tribale, violence faite aux femmes, les assassinats volontaires, spoliation des biens publics, bien sûr, juste tout ça, tous ces espèces de désordres de madame, méritent bien d'être jugés et condamnés. Moi, je crois que c'est une bonne idée à encourager de créer la Cour pénale pour la République démocratique du Congo. Mais la seule question, c'est ce qu'ils sont en train de déposer et de savoir qui va chapeauter cette fameuse cour. D'après ma façon de voir les choses, je vois qu'il sera souhaitable que cette cour soit sous la haute surveillance de l'ONU à travers les conseils de sécurité de l'ONU de ce temps de temps, où il sera habilité à nommer les procureurs et tous les juges. Et de là, il y aura toutes les espèces de corruption et le règlement de compte des politiciens congolais qui sont déjà habitués à politiser n'importe quoi, madame, afin de préserver leur couleur politique et les finir. comme ils sont toujours des conservateurs. C'est ça ma réflexion, madame.
Merci, Marquis. Déjà dans l'introduction, notre invité a souligné que c'est sous le Conseil de sécurité des Nations Unies que peut-être a créé un tribunal pénal. Et il va aussi vous donner d'autres précisions par rapport à tout ça. Qui peut gérer ce genre d'instance? Merci, Mathieu. Nous avons Malonga de Bandundu, qui sera le dernier de cette première série. Bonjour, Malonga.
Oui, bonjour madame.
Oui, quel est votre avis?
Bon, mon avis d'abord, c'est je suis pour.
Vous êtes pour la création et pourquoi?
Voilà, merci. C'est parce que je vois que c'est une instance internationale qui va s'intéresser à cela. Je pouvais être contre si c'est le Congolais lui-même qui serait là pour se venger. Là, en tout cas, ça ne pouvait pas se faire. Mais comme la CPI, oui, je sais très bien qu'il y a des hommes capables qui sauront bien vraiment régler les choses pour ne pas accentuer encore le conflit. Vous savez, si on commence à créer des tribunaux ici, ce sont les populations qui seront les témoins oculaires. Les juges qui seront sur le terrain vont s'intéresser, vont se renseigner à la population pour dénoncer. Alors, vous verrez, ça va, d'une part, accentuer le conflit encore pour le poursuivre.
Mmh.
Ce que j'aimerais aussi dire, est-ce que si ces tribunaux vont se installer au Congo, ça sera seulement à l'est, là où il y a plus d'infractions, ou bien ce sera partout, à la République démocratique au Congo, ou bien partout au monde, pour suivre ce qu'ils ont fait, c'est des ordres dans notre pays.
Merci.
C'est la question à notre invité.
Merci beaucoup, Malonga. Vous avez encore une dernière question, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Votre dernière question.
Oui. Hey, je vais demander encore ceci. Si ces juges seront ici au Congo, pardon, est-ce qu'ils vont introduire la population à la conflit, parce que si la population est introduite à la conflit des associations, on va aussi préparer un autre grave conflit dans notre pays. Merci beaucoup.
Là, j'ai pas très bien compris, Malonga. Vous demandez comment porter plainte. Qu'est-ce que vous voulez précisément? La deuxième question.
Oui, je vais demander ceci. Le juge, lorsqu'il sera ici, dans notre pays, dans les tribunaux qui seront ouverts ici, est-ce qu'ils vont s'intéresser à la population civile pour dénoncer les hommes responsables ou bien les personnes responsables de ces abus commis là-bas? Alors, si c'est comme ça, la conflit sera de profondément accentué et va préparer un autre conflit qui sera très grave. C'est ce que je vois.
Merci, Malonga de Bandundu.
Parole aux auditeurs.
Professeur Vincent, nous revenons à vous. La quasi-totalité de nos auditeurs pour cette première série sont pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Plusieurs motivations, manque de confiance aux tribunaux nationaux. Ils pensent qu'avec ce tribunal, on aura plus de confiance, mais aussi poursuivre certaines personnes qui apparemment sont intouchables. Donc voilà un peu les avis de nos auditeurs. Quelle est votre réaction, professeur?
Avant donc de répondre aux questions, notamment du dernier intervenant qui a posé des questions précises, les auditeurs ont tout à fait raison d'avoir confiance dans un système international. C'est vrai que notre système congolais a des possibilités, disons, théoriques, la capacité de pouvoir juger les criminels, parce que notre droit interne impère bien. En son cas, les dispositions du droit international, des conventions internationales relatives aux droits de l'homme ou au traitement des personnes humaines, etc. Mais en même temps,
l'application
sera difficile. C'est difficile parce que le rapport le dit d'ailleurs. Il y a beaucoup de limites à notre système judiciaire. L'indépendance de la justice n'est pas garantie. Elle est dans les textes. Nous avons l'une des formulations les plus complexes de l'indépendance de la magistrature ou du pouvoir judiciaire. Notre Constitution dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Mais dans l'application.
Parce que d'ailleurs, on ne dit même pas ça, on dit seulement l'indépendance, sans préciser. Nous précisons ça, ça montre bien jusqu'où on peut aller. Mais en même temps, notre Constitution intègre dans le pouvoir judiciaire le ministère public, c'est-à-dire le magistrat. Magistrats de parquet. Donc c'est plus complet, y compris les magistrats militaires. Donc la justice militaire également fait partie du pouvoir judiciaire, donc indépendant. Mais seulement, ça ne s'applique pas de chez nous, parce que nous heurtons à la propension tout à fait exagérée de nos politiques à vouloir accaparer la justice. Non seulement faire pression, mais lui dicter des décisions, lui imposer de poursuivre ou de ne pas poursuivre, et lorsque l'affaire est en cours, d'intervenir, soit pour y mettre fin, soit pour imposer.
Au regard des textes, professeur, est-ce que les instances nationales au niveau de la RDC peuvent avoir une compétence internationale? Donc, par exemple, de poursuivre des auteurs, des présumés auteurs de crimes d'une autre nationalité?
Il y a ce qu'on appelle la compétence universelle, qui est déjà reconnue et imposée par un certain nombre d'instruments internationaux. Je prends un seul exemple, les conventions de Genève de 1949 sur les conflits armés, qui donnent à tout État cette compétence de pouvoir juger tout criminel, d'où qu'il vienne, de quelle nationalité qu'il soit, et même s'il n'y a aucun lien avec l'État qui va exercer cette compétence, même si les victimes ne sont pas ressortissantes de son État. Tout ça parce qu'on a considéré que de tels crimes concernent toute l'humanité. Et puis parce qu'on sait aussi que les criminels ont toujours tendance à aller se réfugier à l'étranger, et là... C'est vrai que tous les États ne le font pas de gaieté de cœur, ni facilement. Quelques États ont essayé, nous avons vu la Belgique, l'Espagne, la Hollande, les Pays-Bas l'ont fait à propos d'un cas congolais d'ailleurs.
Mais ce n'est pas souvent facile au regard de la souveraineté des États.
Non, mais cette compétence est accordée nonobstant la souveraineté des États. On sait bien que les États sont indépendants, mais à partir du moment où les crimes internationaux sont tellement graves qu'ils concernent toute l'humanité, eh bien, ça, c'est une conséquence qui est faite par toute la communauté.
Alors, revenons aux avis de nos auditeurs, de qu'ils en pensent. Vous avez dit, avant de répondre, vous avez aussi d'autres considérations.
J'aime bien quand presque tous reviennent sur le risque de vengeance. Il est bon, effectivement, qu'une justice indépendante s'exerce pour qu'on n'en arrive pas à la vindicte populaire. Vous savez, c'est toujours, on déborde toujours, on ne peut pas contrôler. Donc, c'est un bon esprit, un bon état d'esprit qui anime les Congolais, qui voudraient éviter les risques de vengeance.
Vous pouvez chapeauter alors ce genre de tribunal si
alors, j'ai peur d'attiédir l'enthousiasme de nos spectateurs, parce que le rapport ne recommande pas la création d'un tribunal pénal international. Je dis qu'avec plusieurs formules, un tribunal pénal international, à l'instar du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, un tribunal mixte, ou alors, troisièmement, des chambres spécialisées au sein des institutions juridictionnelles congolaises. Le tribunal pénal international, comme celui sous les Soudanais ou le Rwanda, est créé par une résolution du Conseil de sécurité prise en vertu du chapitre 7 de la Charte. Le tribunal mixte est créé par accord international entre l'ONU et l'État concerné. Le tribunal, les chambres mixtes, bien évidemment aussi, parce qu'elles fonctionnent, elles sont créées et fonctionnent au sein des juridictions de l'État concerné. Mm-hmm. Alors, la solution du tribunal pénal international est aujourd'hui difficile à mettre en œuvre.
Pourquoi?
D'abord, il n'est pas évident que toute la communauté internationale ait la volonté d'y parvenir.
Mais nous avons déjà eu, par exemple, l'ambassade des États-Unis ayant communiqué où les États-Unis ont montré leur volonté à pouvoir soutenir la création d'un tribunal pénal international.
C'est un tribunal pénal ou un tribunal, qui, tribunal pénal international, je voulais dire. Il y a trois institutions différentes.
Mm-hmm.
Est-ce qu'ils ont parlé d'un tribunal pénal international comme celui de Yougoslavie ou du Rwanda, ou ils ont parlé de la répression nécessaire de poursuites de criminels de...
En tout cas, on souhaite qu'il y ait une répression.
Voilà, ça tout le monde le souhaite. Maintenant, moi j'ai parlé avec quelques diplomates, sur ce point, et quelques, même des gens un peu au-dessus des diplomates, sur cette question. J'en ai tiré la conclusion que tout le monde n'est pas prêt à accepter.
Donc il y aurait une autre formule.
La solution rwandaise ou yougoslave. D'abord, ça coûte très cher, je vous l'ai dit. Et puis, le tribunal pénal international a des mécanismes de fonctionnement très lourds, très longs, qui font que l'expérience montre que ces tribunaux n'ont pas été capables d'aborder un grand nombre de cas. Il y a quelques procès qui se sont déroulés. Pourtant, ces situations du Rwanda ou de Yougoslavie concernent des milliers de personnes qui seraient d'éventuels criminels. Et ça prendra beaucoup de temps. Vous voyez, on est en train de se demander maintenant comment mettre fin à l'existence du tribunal d'Arusha, etc., etc. Parce qu'on ne pourra jamais y arriver. De telle sorte que la préférence de la communauté internationale ne semble pas aller vers le tribunal pénal international, au sens strict du terme, mais vers l'une des deux formules mixtes ici. Tribunal mixte ou chambre mixte spécialisée au sein des institutions congolaises.
Donc à ce moment-là, qui va diriger ces institutions?
Alors, ça peut varier. Du rapport, ça dépend du rapport de force, j'ai dit, ça se fait par traité, par accord. Ça dépend du rapport de force entre l'ONU et l'État concerné, le degré de résistance ou de bonne ou mauvaise volonté de l'État concerné, qui peut introduire beaucoup d'entraves ou beaucoup de limites.
Mm-hmm.
En général, l'idéal, c'est qu'on attribue le plus grand rôle au sein de ces juridictions mixtes aux éléments internationaux, c'est-à-dire des juges internationaux, des enquêteurs internationaux qui auraient un plus grand rôle que les nationaux. Ça, ce serait une meilleure garantie. Mais est-ce que l'accord le peut? Ça dépendra de l'accord.
Mais aussi, avec ce genre de tribunal, est-il possible aussi de poursuivre, par exemple, des personnes qui sont encore dans des fonctions, qui ont certaines fonctions au sein du pays?
Théoriquement, rien ne l'interdit. Mais ces personnes peuvent être parmi les dirigeants du pays. C'est très difficile. À moins que l'un des dirigeants s'arroge le droit, le pouvoir, de soumettre tous les autres, s'excluant lui-même, de soumettre tous les autres à ce genre de tribunal. Il va y avoir des compromis, des
conciliations, etc. Donc il faudrait vraiment une forte volonté politique.
Une forte volonté politique. Je dis beaucoup à vous répondre parce que moi-même, en discutant avec ces personnalités dont je parlais tout à l'heure, je leur ai dit que les Congolais, quand ils verront que la solution, ce n'est pas un tribunal pénal international indépendant, c'est-à-dire créé par le Conseil de sécurité, qui s'impose à tout le monde, vont voir leur enthousiasme baisser.
Oui.
Parce qu'effectivement, dans les autres formules, le rôle de l'État est important. Il faut donc compter avec la volonté de l'État. Ce n'est pas évident, non seulement en général, mais plus particulièrement pour ce qui concerne le Congo. Ce n'est pas évident que les autorités congolaises joueraient le jeu jusqu'au bout.
Alors nous allons suivre vos autres auditeurs qui veulent participer à cette émission pour ou contre la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Nous avons le député Melio Kunji qui est déjà au bout du fil, Fali de Mbujimayi et Rodin de Kinshasa.
Parole aux auditeurs par internet et à @radiookapi.net.
Bonjour monsieur le député.
Bonjour madame.
Et vous êtes pour la création de ce tribunal pénal international, pourquoi?
Eh bien, nous sommes pour la création d'un tribunal spécial international pour le Congo parce que les crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo ont des causes endogènes et exogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des implications internes et externes. Ce n'est pas pour rien que vous aviez vu certains pays voisins s'agiter, faire des pressions sur le secrétaire général des Nations Unies pour que le rapport Mapping ne soit pas publié. Alors, étant donné qu'il y a des causes endogènes et exogènes, il faudrait qu'il y ait une instance compétente pour juger tout le monde. Voilà la raison pour laquelle nous militons pour la création d'un tribunal spécial international pour le Congo, à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda. Aujourd'hui, on parle du génocide rwandais. Lorsqu'il y a eu le génocide rwandais, il y a eu à peu près 800 000 morts. Au Congo, sans avoir le chiffre exact, on vous dit qu'il y a plus de 6 millions de morts. Donc, la communauté internationale, les Nations Unies, ne peut en aucun cas encourager la politique de deux poids, deux mesures. Je suis certain que si il y a la volonté manifeste de la République démocratique du Congo pour que la justice soit faite à ce qui s'est passé à l'Est, nous allons obtenir cette résolution des Nations Unies, d'autant plus que nous ne pouvons avoir une paix juste, une paix durable dans le pays des Grands Lacs, que lorsque l'impunité qui est érigée en mot de résolution de conflits à l'Est sera, en tout cas, qu'elle mettra fin à cette impunité.
Merci beaucoup.
Les Nations Unies ne peut qu'encourager la résolution, ne peut qu'encourager la prise d'une résolution dans ce sens-là pour qu'il y ait une paix juste, une paix durable dans le pays des Gralas.
Merci pour votre intervention. Nous avons parlé de musulmans, aussi les cours. Finalement, on n'aura que des auditeurs pauvres parce que depuis le début. Fanny Dombouzoumaï, on vous écoute. Quel est votre avis et pourquoi vous êtes pour?
Ah oui, bien, merci beaucoup, madame la journaliste. J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt le rapport Mapping. Et la partie qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la partie qui concerne le Katanga en RDC. Je suis de la communauté de ceux qui ont été refoulés du Katanga en 1903. Et ceux qui ont participé de loin ou de près à tout ce qui s'est passé en ce temps-là dans notre pays, il y en a qui sont encore à la commande, nous souhaiterions que, comme jusque-là, la justice n'est pas encore faite en faveur des communautés qui ont été touchées dans les malheureux événements de 1993, 1994 et 1995, si on peut, à partir de ce tribunal international, arriver à juger tout cela qui, de loin ou de près, ont donné main forte à ce que cela puisse arriver, parce que vous pensez, madame, que lors de ces événements malheureux, plus de 800 000 personnes ont trouvé la mort, et il y a même dans le rapport où on a dit le cimetière le plus long du monde se trouve entre le Katanga et les deux Kasaï. Vous voyez, nous sommes pour qu'un tribunal international puisse être érigé afin de juger tous ceux qui, de loin ou de près, ont prêté main forte à ce qui est arrivé et que tous ceux qui ont travaillé, par exemple, à la GECAMINE, je suis parmi ceux-là qui ont travaillé à la GECAMINE pendant plusieurs années, mes parents y ont passé presque toute leur vie, mais jusque-là, tous ceux qui ont travaillé n'ont jamais été indemnisés. Leur paiement n'a pas suivi, jusque-là, on est en train de se battre bec et ongles pour qu'on arrive à payer tous les gens qui ont pressé pendant plusieurs années à la GECAMINE. Si l'État congolais n'est pas en mesure de trouver solution à ce problème-là, nous pensons qu'un tribunal international pourra peut-être faire la meilleure des choses afin que justice soit faite.
Merci,
là,
Fali.
Nous sommes pour.
Merci beaucoup, Fali. À partir de Mbujimaï, on va écouter aussi Rodon de Kinshasa. Bonjour, Rodon.
Oui, bonjour, madame.
Vous êtes pour la création d'un TPI. Pourquoi?
Oui, madame, en me référant au rapport Mapping et à d'autres rapports précédents, je le dois de la manière de dire, madame, je suis très favorable pour la création d'une instance judiciaire pour la RDC. Parce que les crimes odieux et les abominations qui ont été commises dans notre partie orientale ne doivent pas rester impunis. Parce que je pense que la RDC est confinée dans une position d'un enfant mal aimé par la communauté internationale. Parce que si nous prenons ce qui a été fait pour d'autres pays comme le Rwanda après les génocides de 94, comme la Sierra Leone après la guerre civile, et comme le Cambodge, où il y avait moins de victimes que chez nous, on aurait déjà créé un tribunal pénal international pour le Congo. Parce qu'il faut noter que la guerre d'agression de 1998 et de 2003 est la plus meurtrière, avec entre 5,4 et 6,9 millions de morts. L'impératif de créer un tribunal pénal international pour faire justice au Congo et au peuple congolais.
Oui, et redans tous les chiffres, où est-ce que vous les avez eus?
Les chiffres de 5,4 millions de morts, c'est l'ONG américain International Rescue Committee. Et l'autre chiffre de 6 millions 9, c'était le journal américain New York Times qui a publié ça récemment. Et donc, il est vraiment impératif de créer ce tribunal pour faire justice au Congo et à son peuple, en jugeant tous les responsables de ces grands humains, que moi j'ai qualifié même de l'Holocauste congolais, dont certains occupent des postes importants aujourd'hui dans le pays, qui sont au gouvernement, ils sont au parlement, ils sont dans l'armée, ils sont dans les associations publiques et d'autres qui sont ailleurs dans d'autres pays dans le monde.
Merci Rodan pour votre intervention, Maître Ossoise. Vous écoutez la Kinshasa 40, vous écoute.
Et merci Madame la présentatrice pour l'opportunité que vous me donnez. J'apprécie l'intervention du précédent intervenant. Je pense que la question est de savoir si on est pour ou contre. Parce que comme vous l'avez remarqué, les faits sont là. Et les peuples, l'opinion tant nationale qu'internationale, est maintenant suffisamment informée sur ce qui s'est passé effectivement dans notre pays. Maintenant, la grande question serait que c'est l'histoire. Quel mécanisme adopter pour réprimer les crimes internationaux commis en RDC? D'abord, je parle d'un fait. C'est que l'ampleur des crimes que nous avons connus dans notre conflit armé, dans les différents épisodes de conflits armés, fait que nous ne pouvons que réprimer ce genre de crimes par un tribunal pénal international. Contrairement peut-être à ce que le professeur dit, et je comprends, il a raison, c'est l'opinion qui est partagée par la communauté internationale, c'est que c'est coûteux. Un tribunal pénal international, c'est coûteux. Mais seulement, je vais rappeler que même un tribunal spécial ou un tribunal mixte reste coûteux. Donc la justice pénale internationale a un prix. Donc, quelle que soit la forme par laquelle on peut l'aborder, elle a un prix. Le problème, c'est de la volonté politique, tant au niveau interne que l'enthousiasme international à mettre les paquets à la main. Je vous rappelle que les actions des Nations Unies recommandent à l'Ecosoc de contribuer à chaque, aux États de contribuer à chaque fois pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Or, avec les crimes internationaux, les crimes, la sécurité, la paix internationale a été menacée, on doit mettre les paquets pour remettre les choses en ordre. Et puis, quand on parle de coûts, je vous rappelle que la RDC a un projet contre l'Ouganda où l'Ouganda doit à 10 milliards de dollars à la République démocratique du Congo en dommages et intérêts. Moi, je pense que si nous avons un gouvernement responsable, nous pouvons déjà commencer à réfléchir comment est-ce que les 10 milliards qui seront peut-être payés de manière échelonnée, on puisse prendre une part de 1 milliard ou 2 milliards de dollars pour financer la justice. Mais moi, je lui dis que c'est la volonté politique qui n'y est pas, tant au niveau national qu'au niveau international.
Merci beaucoup, Maître Oswald. Le temps d'écouter aussi Guillaume de Mangui. Vous avez souligné que la justice a un prix et il faudrait coûte que coûte payer ce prix-là pour pouvoir mettre fin à cette impunité. Nous vous remercions. Le temps d'écouter aussi Guillaume de Mangui. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour, monsieur l'invité au détail de la loi.
Oui, Guillaume, on vous écoute.
Tout à fait, alors, cette mesure, je ne suis pas spécialiste, mais je suis réaliste. Oui, je vais faire la raison de faire l'autre. Il fait une question de la discipline d'un instant. C'est avant tout. Ici, au pays, on a jugé qui est quand et où. Et on va juger comment les forts. Donc, il faut, à mon avis, que la Cour internationale intervienne comme une justice de complémentarité. Parce que ici, le gouvernement n'a pas la volonté de juger les forts. Tous les gouvernements font le contraire de s'y prendre seulement quelqu'un à son titre conservateur. Oui, je vais vous donner peut-être des exemples brefs. Oui, autant des généraux qui ont vendu par exemple la ville de Rumangabo. Oui, je sais que c'est ce que vous avez ignoré.
J'espère que tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez des preuves.
Si vous demandez à un cas au poste. Oui, donc ici, la faiblesse actuelle du gouvernement, c'est une chose qui a été constatée. Donc, pourquoi L'État, notre État fait le contraire de suspendre que seulement quelqu'un à son titre conservatoire. Donc, il faut avant tout, il faut qu'il y ait une question de la discipline d'un État.
Merci beaucoup Guillaume, mais n'oubliez pas qu'il y a la compétence du cours, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides, donc il faudrait vraiment que les infractions ou bien ce qui a été commis soit vraiment à la hauteur des crimes de guerre contre l'humanité ou bien génocide pour porter ça à un tribunal pénal international ou bien à un tribunal mixte spécial. Donc il faut qu'il y ait un certain niveau avant d'arriver à cela. Merci beaucoup Guillaume pour votre intervention. Martel de Kindou, avant qu'on puisse donner la parole à notre invité, nous allons prendre Martel aussi, Léon de Béni. Martel, on vous écoute.
Oui, moi... Bonjour, la Radio Capi. Moi, je suis pour cette manipulation de la communauté internationale. J'appelle ça manipulation parce que tous ces secrets, ce sont des grandes puissances qui ont financé ça. Et maintenant, ils disent qu'ils vont faire une justice sur ça. Moi, je trouve ça d'accord pour éviter ces Congolais qui ont été manipulés par cette grande puissance.
Merci, c'est votre point de vue. Merci pour votre intervention. Léon de Béni, vous avez la parole.
Bonjour, Marie-Cantal.
Bonjour.
À mon niveau, je dirais que je ne suis pas vraiment d'accord avec peut-être la suggestion de la communauté internationale de s'aller une sur au commerce international. Puisque jusque là, si on vérifie bien, un Congolais donc, qui analyse bien que le problème de son pays, dira que la communauté internationale jusque là ne nous a pas encore donné le temps d'avoir une idée que le peuple congolais attend. Donc la communauté internationale doit d'abord commencer à régler le problème de Sinteramo. Ils veulent imposer un problème que le Congolais ne savait pas. Mais lorsque le Congolais commence à se forcer d'amener la paix dans ce pays, ils veulent en la communauté internationale veut encore imposer quelque chose que le Congolais n'a pas encore senti son importance. L'importance de ce qu'il n'est pas encore senti. Nous devons d'abord réglementer nos cours de tribunaux. Nous avons des magistrats compétents. Peut-être que les Français ont différents problèmes, et peut-être légiférer encore une loi qui peut encore englober aussi les infractions internationales, par exemple les crimes de guerre, les crimes de génocide. Mais les magistrats sont compétents.
Mais s'il vous plaît, Léon, pour votre gouvernement, il faudrait dire que le vœu de la création d'un tribunal pénal international, c'est d'abord, il y a eu la société civile qui a souhaité cela, il y a aussi des structures tant nationales qu'internationales, sans oublier, ça faisait partie même des recommandations du dialogue intercongolais tenu en Afrique du Sud en 2003. Donc ce n'est pas seulement une volonté, comme vous pensez, de la communauté internationale, il y a des Congolais, des nationaux qui se sont levés. Il y a eu même une pétition qui est en train de circuler où il y a des Congolais qui signent pour pouvoir créer ce tribunal. Sans oublier, même dernièrement, avec la marche de Bukavu, il y a eu des voix qui se sont encore une fois levées pour la création de ce genre de tribunal. Merci Léon de Béni pour votre intervention.
Les auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Professeur, encore une fois, nous avons constaté nos auditeurs, il y a une soif vraiment de justice par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Qu'en pensez-vous?
Je disais que cette soif est tout à fait normale, je crois que c'est salutaire, c'est très bien. quand on a ça pour de justice, j'ajoute seulement que cette justice a déjà commencé dans la vie interne même de notre pays, parce que nous pensons qu'elle est déficitaire dans notre pays. Cela dit, j'ai bien aimé l'ami qui a relevé le cas du Catania, parce que tout le monde parle de l'Est. Le rapport ne concerne pas que l'Est. Le rapport concerne toute la République démocratique du Congo, les crimes commis entre 1993 et 2003 en République démocratique du Congo. Aussi bien au Katanga que dans le Bas-Congo, Inga, Kitona, etc., tout ça rentre dans cet ordre.
Et même dans le Kasaï.
Dans le Kasaï, oui, avant, notamment, même sous la Deuxième République, il y a des faits qui sont relevés. Qui pourraient faire l'objet d'investigations plus approfondies pour pouvoir les qualifier du point de vue du droit pénal international ou national. Cela dit, il y a, c'est vrai, par rapport à tous ces faits, des acteurs congolais qui sont encore aux affaires, dont certains à un niveau très très élevé, ça n'incite pas à trop d'optimisme béat. Quand même, quand on sait que cela peut être bloqué à un moment ou à un autre, nous avons un cas précis de quelqu'un que le gouvernement préserve jusqu'à aujourd'hui parce que, alors que la communauté internationale le réclame pour la Cour, on dit non, nous avons signé avec lui, il était un pion important pour nous, etc. etc. Et il va y avoir des conflits d'intérêts, des conflits qui vont faire que certaines choses soient bloquées dans la mise en œuvre de cette justice.
D'où l'importance même d'un tribunal pénal international.
D'où l'importance en tout état de cause.
Au lieu d'avoir des chances.
Une instance qui ne dépend pas que des autorités congolaises. Parce que nous savons que ces autorités ont horreur de l'indépendance de la justice et des magistrats. Nous le voyons. Tous les principes que comprend l'indépendance de la justice, c'est-à-dire l'inamovibilité, l'indépendance financière, l'autonomie fonctionnelle et administrative, sont méconnues par nos dirigeants. On a même eu des velléités de réforme constitutionnelle qui reviendraient sur l'indépendance de la justice. Donc, vraiment, ça ne prête pas à être très heureux pour l'avenir. C'est pour ça que l'ami Léon, qui parle de la compétence de nos tribunaux, il a raison. Mais il faut remarquer que tous les crimes concernés par ce rapport relèvent, selon le droit congolais, de la justice militaire. Et tout ce qui a été fait au Congo jusque-là l'a été par les tribunaux militaires. Cette compétence exclusive ne se justifie plus aujourd'hui parce que le code militaire lui-même précise que ces crimes ne sont pas nécessairement liés à la guerre. Donc, ce sont des crimes qui peuvent être commis en dehors de guerre et qui peuvent être commis par des civils. On voit soumettre des civils à des juridictions militaires. Ça va à l'encontre d'un certain nombre de
principes.
Et même, nous déplorons la dépendance de la justice. Et là, encore plus grave en ce qui concerne la justice militaire. Vous savez, c'est l'ordre militaire, c'est l'ordre de la hiérarchie, du commandant, du chef, etc. Donc, ce n'est pas aussi évident. Cela dit, nous ne devons pas non plus perdre de vue que toute solution internationale dépendra de la communauté internationale. Je ne suis pas de ceux qui, même déjà ici, dénoncent un complot international qui aurait été ourdi contre le Congo, je ne sais pas quel demi-urge, mais je n'y crois pas. Je sais seulement qu'il y a des intérêts de différents États qui sont en choc. Qui s'entrechoquent avec les nôtres, etc. Nous n'arrivons peut-être pas à mieux défendre les nôtres, nous n'avons peut-être pas les moyens de mieux les défendre devant les intérêts étrangers, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un complot et que la communauté internationale, même en proposant un tribunal, soit en train de redire, de perpétrer.
Certaines personnes font allusion au fait qu'à la période où il y avait eu des ressortissants rwandais qui devaient entrer en RDC avec la demande et l'autorisation qui a été donnée par le gouvernement congolais d'accueillir ces personnes. Souvent, ils font allusion à cette époque-là.
Est-ce que vous savez que des Congolais eux-mêmes qui sont arrivés derrière les Rwandais ont reproché cela aux Mobutu? Vous avez laissé entrer des génocidaires, etc., etc. Nous, maintenant, internationalistes africains, nous allons faire aussi.
Nous allons pas entrer dans toutes ces considérations, mais l'essentiel, c'est que la plupart de nos auditeurs, même presque tous, ont pensé qu'il est nécessaire qu'on puisse avoir un tribunal, une instance internationale
pour pouvoir être indépendant de l'exercice congolais.
Oui, et encore une dernière question, vous êtes revenu vous-même plusieurs fois sur les finances. Ça coûte cher. Et souvent, qui finance ce genre d'instance? Est-ce que l'État congolais doit contribuer? Comment ça se passe?
L'État congolais doit contribuer, en particulier s'il s'agit d'un tribunal mixte ou de chambres mixtes au sein des institutions juridictionnelles congolaises. Donc, l'État congolais doit contribuer au prorata de ses possibilités, de ses capacités. On doit faire largement appel à la communauté internationale, non seulement au système institutionnel, mais aussi aux États, non seulement aux organisations internationales, mais aussi aux États. Il y a une dernière formule de justice qui pourrait être utilisée dans le cadre de ce que le rapport appelle la justice transitionnelle, c'est la commission vérité, justice et vérité.
Justice et vérité.
Oui. Qui, dans notre pays, n'a pas bien fonctionné.
En Afrique du Sud, ça a bien fonctionné, d'ailleurs,
mais on pourrait très bien l'adapter aussi, parce qu'il y a des cas qui ne pourraient pas, effectivement, facilement relever des tribunaux, mais où il y a pourtant des victimes. Mais on ne peut pas qualifier véritablement les faits, on ne peut pas mener toutes les investigations. Il faudra pourtant s'occuper des victimes. Mm-hmm. Et je pense que cette voie-là aussi peut être utilisée. Il ne faut pas l'exclure. Elle pourrait être complémentaire à l'existence d'un tribunal. En tout cas, même si ce n'est pas un tribunal pénal international, mm-hmm. c'est tout ainsi, en tout cas un tribunal qui ne dépende pas.
Nous allons poursuivre cette émission parce qu'aujourd'hui c'est mercredi. Parole aux auditeurs à deux parties. La première partie commence à partir de 10h03, heure de Kinshasa, jusqu'à 11h, parce qu'à 11h nous avons notre bulletin d'information. La seconde partie, ce sera à partir de 11h03 jusqu'à 11h15. Donc, dans quelques instants, professeur, nous allons suivre le bulletin d'information qui va intervenir dans quelques secondes. Et aussi aux auditeurs, surtout ne vous lassez pas. Il suffit de composer le 081-899-6315, 081-899-6315, et vous pourrez intervenir au cours de cette émission.
Radio Okapi est aussi avec vous sur la solution, en direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, lors de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Nous poursuivons parole aux auditeurs dans sa seconde partie aujourd'hui au centre, la question au centre de notre émission, pour ou contre la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. L'idée d'un tribunal pénal international pour la RDC a fait du chemin et figure au nombre des recommandations du dialogue inter-congolais tenu en Afrique du Sud en 2003. Demande reprise par le gouvernement congolais qui à un moment par la voix de son ministre de la Justice l'avait jugé dépassé. Actuellement, la position de Kinshasa n'est pas très clair. Néanmoins, le porte-parole du gouvernement avait déclaré soutenir cette demande. Depuis la publication le 1er octobre dernier du mapping rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme sur des crimes commis en RDC entre 1993 et 2003, la question de la création d'un TPI pour la RDC sur toutes les lèvres, aussi bien en RDC, dans la région des Grands Lacs que dans la communauté internationale. Quel est votre avis à vous, bien sûr? Et êtes-vous pour ou contre la création d'un tribunal pénal international pour la RDC? Et nous avons comme invité le professeur Auguste Mampouya, il est notre invité bien sûr, aussi professeur de droit dans plusieurs université de la RDC à travers le monde, professeur émérite de l'université de Nancy en France, mais aussi juge ad hoc à la Cour pénale internationale. Nous avons, professeur, vous avez quelque chose à dire?
La Cour internationale de justice.
De justice, c'est oui, c'est totalement différent, parce que la Cour pénale internationale, c'est pour des crimes de guerre, mais la Cour internationale de justice, là, c'est pour les conflits entre États. Nous avons déjà célèbre de Kinshasa, qui au bout du fil, Albert de Kisangani, Timothée de Mbandaka. Nous commençons par célèbre de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal. Bonjour Elina Prosper Mampouya qui m'a licencié les cours de DIP deuxième partie.
Voilà, on vous écoute.
Merci bien.
Oui, bien écoutez, je suis 80% pour. J'adhère favorable à l'idée de création d'un tribunal international pénal pour la RDC et 20% contre. Je m'explique. Pourquoi contre? Parce que nous prenons l'exemple de l'Irak. Les Nations Unies ont été incapables d'empêcher l'évasion irakienne par les États-Unis. Et on ne peut pas se dire un jour être prêt à réprimer les auteurs des massacres irakiens. Donc, on ne peut pas jouer avec la souveraineté des États. Vous financez la guerre et puis vous venez après pour dire que non, nous allons réprimer.
Est-ce que vous ne pensez pas que cet exemple-là, est-ce que vous pensez que c'est presque la même chose qui se passe en RDC?
Ça, c'est l'aspect contre, parce que mon avis a dévolé. 20% contre pour ces raisons, pour cette raison-là, et 80% pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, je disais qu'on ne peut pas s'amuser avec la souveraineté d'État en ne finançant la guerre et après venir réprimer les auteurs des actes criminels. Je suis pour, parce que je ne suis pas d'avis avec le professeur Mampouya qui estime qu'on peut... on peut mettre des instances, c'est-à-dire des chambres spécialisées dans les centres judiciaires de notre pays, parce que, monsieur le professeur, vous savez que les plus grands juristes qui rongent le bon fonctionnement de la machine judiciaire en République démocratique du Congo restent la corruption. Le tribunal pénal international sera compétent plutôt et ne va pas tenir compte des privilèges des juridictions. Donc, selon moi, la plupart de ces criminels sont dans l'armée congolaise. Comme la justice congolaise est incapable de les juger, je
pense que... En tout cas, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais quand vous avez donné votre idée, vous avez aussi donné vos arguments. Nous avons Albert de Kitangani. En une minute, Albert, nous n'avons pas beaucoup de temps.
Oui, merci Marie-Chantal. Vraiment, ça tombe à pic pour cette histoire de tribunal international, mais moi, j'aimerais que ce tribunal soit implanté dans un autre pays pleinement démocratique, entre autres le Ghana. Parce que ici, chez nous, il y aura beaucoup d'injections de la part du pouvoir. Et après, il faut que d'abord, il y a instabilité dans les pays. Comment est-ce qu'on peut implanter un tribunal dans un pays il y a des autres?
Donc, vous êtes pour et vous pensez qu'il faudrait localiser ce tribunal dans un autre pays. Bonjour, Timothée.
J'ai bien cité le Ghana.
Le Ghana.
Attends, si aujourd'hui nous avons qu'on appelle madame, nous devons en tout cas rendre hommage à Mobutu avec les plans de qu'il a mis pour vous. Parce que l'objectif de tout ce bien, c'est d'organiser ces pays.
Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais quand même, vous avez donné votre idée maîtresse. Timothée, vous êtes le dernier, vous appelez à partir de Mbandaka, on vous écoute.
Oui, merci. Ma contribution est celle-ci. C'est-à-dire, il est important, je suis d'abord pour le tribunal pénal international pour être installé ici au Congo. Mais je suis aussi d'autre part contre cela. Pourquoi? Je me justifie. C'est-à-dire, les armes qui sont vendues ici en Afrique, l'Afrique n'a pas de firmes qui fabriquent des armes. Les armes émanent souvent dans des pays développés. Et de cela, ces armes sont vendues aux autorités africaines qui arrivent des fois à financer, n'est-ce pas, les forces négatives dans des pays voisins pour pouvoir déstabiliser les gouvernements qui sont en place. Donc, de toutes les façons, cette cour-là, si on aura à installer cela ici au Congo, que sur le plan de la compétence territoriale, que cela ne puisse pas seulement se limiter sur les sols congolais, mais que cela puisse encadrer tous les pays de l'Afrique centrale ici. Parce que, à partir de là, on aura un peu à mener des enquêtes approfondies pour pouvoir identifier les armes qui sont utilisées par les forces négatives. Parce que les armes sont achetées par les chefs de l'État de ces pays-là. Et on connaît que non, qu'elle avait acheté dans de telles firmes. Donc, à partir de là, on pourra toutefois mener des investigations pour pouvoir arrêter cette hémorragie. Sinon, on aura seulement à arrêter les délégués qui utilisent les armes dans des forces négatives sans pour autant arrêter l'origine même de cet incident.
Merci, Timothée Dombandaka. Vous êtes le dernier auditeur au cours de cette émission. Nous remercions tous nos auditeurs. Nous redonnons la parole à notre invité. C'était pour réagir par rapport aux propos de cette dernière série d'auditeurs, mais aussi en même temps pour conclure, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'émission.
Merci bien, Chantal. Pour répondre à ce lèvre, ce n'est pas moi qui parle de féminin mixte.
Ce sont des propositions. Hein?
Ce sont des propositions de l'équipe Mapping qui est présente là. Mais en même temps, je dis que cette équipe indique les avantages et les inconvénients de chacune des formules. Il faudra maintenant que les décideurs, c'est-à-dire la communauté internationale, la République démocratique du Congo, etc., choisit, en fonction de ses avantages et ses inconvénients, la formule qui conviendrait. Je suis avec lui, avec d'autres, d'avis que la formule qui serait la meilleure, c'est celle qui ferait dépendre le moins possible ce tribunal ou ces juridictions des autorités congolaises. Vous savez, la chose est compréhensible que les autorités congolaises ne soutiennent que du bout des lèvres l'institution de ce tribunal. Vous l'avez dit, à un moment donné, le ministre de la Justice avait même dit que c'était dépassé, que ce n'était plus nécessaire. Comme si justice avait déjà été rendue. Et aujourd'hui, un autre ministre dit que le Congo soutient, mais c'est vraiment du bout des lèvres. Vous savez, il y a encore aujourd'hui dans nos institutions les gens qui, je ne parle pas seulement de l'Est, Vendée, machin truc, mais des Congolais, des autorités congolaises qui hier étaient chefs de guerre et qui ont ordonné par exemple le d'abattre des avions civils et qui à l'époque avaient dit que si c'était un tel, ils le referaient. Ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. Ces gens-là, je ne vois pas très bien. Comment, surtout, ils sont engagés dans le processus de négociation avec les Nations Unies pour la création soit d'un tribunal international, soit d'un tribunal mixte, je ne sais pas comment ils feraient.
C'est leur position.
Voilà. Donc, tout cela, moi, je suis très réaliste. Je suis un internationaliste achevé, c'est-à-dire convaincu de l'efficacité des institutions internationales et de leur utilité, mais en même temps, je suis réaliste en indiquant qu'il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup d'entraves à cette démarche. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est bon que les activistes congolais qui continuent de réclamer un tribunal vraiment indépendant, mais avec les conséquences que cela aura, c'est-à-dire qu'il sera lourd, il sera long. Beaucoup de gens ont relevé ici le fait que ces crimes avaient été commis beaucoup par des étrangers, par des Congolais aussi, mais par des étrangers. Et qu'en tout état de cause, les enquêtes nécessaires devront également aller jusqu'à l'étranger. Peut-être pas pour aller juger là-bas, mais au moins pour avoir les éléments de preuve, parce qu'il faut maintenant prouver et qualifier juridiquement, pénalement, ces faits. Donc, ça dépendra également de la bonne volonté des États. Je ne parle pas seulement de l'État congolais, dont nous voyons l'implication d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de tout le régime que nous avons aujourd'hui date de la guerre, et par conséquent, est compris dans les faits qui sont concernés.
C'est légitimé par les élections de 2006, bien sûr.
Mais la légitimation par les élections, d'abord, Marie-Chantal, les élections ne servent pas à légitimiser ou à légitimer un individu. Deuxièmement, légitimer un individu ou les dirigeants ne signifie pas qu'ils ne sont plus responsables pénalement des crimes qu'ils ont. D'ailleurs, la Constitution prévoit que ces autorités légitimes peuvent répondre des infractions pénales commises par eux.
Merci beaucoup, professeur.
Ce n'est pas une raison. Je sais que nous avons eu une conception très sacralisante et pratiquement théologique, théocratique du pouvoir. Mais
la justice, c'est la justice.
Et que la citoyenneté pourra avoir.
Tous les enfants égaux devant la justice.
J'aimerais bien que cela soit vrai dans notre pays.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté de notre invitation au cours de cette émission pour ou contre l'installation d'un tribunal pénal international pour la RDC. Nous disons également merci à tous les auditeurs qui sont intervenus, ceux qui nous ont entendus, qui nous ont écoutés tout au long de cette émission. Soit en FM ou sur www.radiocapi.net. N'oubliez pas que demain, nous avons un prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas? Allô?
Et demain, vous allez retrouver Pierre Lamézi à partir de 11h30. Le débat va tourner autour de l'inquiétude exprimée par la FEC dénonçant la multiplicité des taxes provinciales, taxes qui, selon la FEC, étouffent les activités des opérateurs économiques. De leur côté, les gouverneurs des provinces rejettent ces allégations et estiment que ces taxes sont légales. Un bras de fer dont les conséquences retombent sur les consommateurs qui constatent une pénurie sur le marché ou une augmentation des prix. Comment réagissez-vous face à cette situation? Vous pouvez envoyer votre mail dès à présent à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à Cécile Bachizi, à Pierre Lamégie, sans oublier Jean-Noël Moncondo qui ont réalisé cette émission. Marie-Chantal Nomba était à la présentation. À la prochaine. Thank you.